La psychanalyse par Jacqueline Miller. Aujourd'hui, l'interprétation est une ponctuation.
Le psychanalyste use d'une grande méthode. Et cette grande méthode, c'est la ponctuation. Oui, comme à l'école, quand on fait faire des dictées, qu'on insiste, mettez bien la ponctuation. Alors, prenons d'abord justement la ponctuation typographique. Vous ouvrez un livre, vous avez l'unité de la page, dans la page vous avez des paragraphes, les mots sont séparés les uns des autres, au début d'une phrase vous avez une lettre capitale, vous avez des virgules, des points virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation, enfin tout un appareil qui n'existe pas dans la parole, qui est un supplément qui soutient, qui appareille l'écriture. Et la ponctuation, celle-là, n'a pas toujours existé. Du temps de saint Augustin, par exemple, les manuscrits n'étaient pas ponctués. La séparation des mots n'a été que progressivement introduite dans les manuscrits. Le texte se présentait comme un ruban signifiant continu. Et pour comprendre des passages étendus, que ce soit en vers ou en prose, l'étudiant devait prononcer les mots un par un. Les professeurs de grammaire, c'était d'abord des professeurs de lecture, de la lecture à haute voix. La lecture silencieuse, qui est la nôtre, n'est arrivée dans l'histoire que très progressivement et assez tard. L'introduction de la ponctuation, ça a été un événement qui a transformé tout à fait la lisibilité, et c'est de très grandes conséquences. Par exemple, dans le texte de la Bible, l'absence de ponctuation est source d'ambiguïté fondamentale. Alors, la ponctuation fixe le sens, et dès qu'on invente de la changer, le sens se renouvelle, parfois se bouleverse complètement, et si l'on met une mauvaise ponctuation, le sens s'altère. Quand il s'agit de la Bible, la différence entre l'orthodoxie et les hérésies, ça peut tenir à une question de ponctuation. Et changer la ponctuation, vous pouvez essayer de le faire même des propositions courantes, vous pouvez arriver à faire dire à quelqu'un le contraire de ce qui était son intention. Et d'ailleurs, souvent, le lapsus découvre ce genre d'interversion, de changement. Eh bien, de la même façon, disons, la ponctuation de l'analyste est ce qui rend l'inconscient lisible dans ce que vous dites. Et on peut même dire que c'est essentiellement ce que le psychanalyste ajoute à la parole. L'interprétation de l'analyste est essentiellement un fait de ponctuation. Et c'est pourquoi si on doit le rapporter, ça peut être des riens. Ça peut être comme une virgule, comme un point d'exclamation. Peut s'agir d'un simple oui, même d'un grognement, ou de la répétition de l'énoncé d'un patient, parce que c'est comme si vous mettiez des guillemets, ou c'est comme faire une citation. Et de la même façon, il y a une ponctuation tout à fait essentielle, l'interruption de la séance. Il y a des psychanalystes qui se privent de ce moyen de ponctuation et qui considèrent que la séance analytique doit s'arrêter à heure fixe. Bon, pas comme ça que d'autres, dont moi, nous pratiquons, considérons que l'interruption de la séance est un élément tout à fait essentiel de cet acte analytique et que c'est une ponctuation essentielle qui donne sa valeur à ce qui s'est dit dans la séance. Alors la ponctuation de la parole peut accompagner le sens qui répond à l'intention du sujet. Par exemple, vous pouvez ainsi prendre acte d'une déclaration affirmative. Bon, voilà une personne, une patiente qui vous dit « Je suis aujourd'hui une femme libre ». Bon, si vous levez la séance sur cette déclaration, là, vous produisez un effet majeur de ponctuation. Interrompre la séance là-dessus équivaut à faire entendre un « tu l'as dit ». Et au fond, d'autant plus insistant, d'autant plus éclatant, percutant, que vous ne dites pas un mot. Vous considérez que, au fond, avec ça, on ne peut pas aller plus loin. Vous prenez acte. Vous soulignez. Alors, bien sûr, le travail de réflexion va se poursuivre entre cette séance et la suivante. Et même si, éventuellement, cette patiente aurait voulu pouvoir continuer, noyer son propos. Là, vous l'empêchez de noyer. Savoir, peser, suis-je vraiment une femme libre, comme je l'ai dit? Vais-je revenir chez l'analyste en lui disant « Oui, je suis une femme libre, je le répète » ou va-t-elle douter de cette qualité qu'elle s'est attribuée? Et l'analyste, lui, n'a rien dit. Il a seulement mis cette patiente dans la position de s'entendre parler. Et on peut dire que, réduite à son minimum, la ponctuation analytique conduit l'analysant à s'entendre parler. L'analyse, c'est une chambre d'écho, et l'analyste est là pour introduire juste le petit décalage qui permet qu'on s'entende parler. Mais aussi, la ponctuation peut transformer le sens qui ne répond plus à l'intention du sujet, faire émerger un sens différent. Par exemple, cette ponctuation peut souligner dans ce que vous avez dit quelque chose qui pour vous est tout à fait secondaire. Et avec cette ponctuation, vous êtes conduit à vous demander si par hasard, ça ne serait pas plus important que vous ne croyez. Est-ce que ça n'est pas un élément essentiel de votre cogitation, de ce qui vous agite? Et la ponctuation peut aller jusqu'à inverser le sens. C'est un exemple fameux de Freud. Quand un sujet vous dit à propos d'un rêve où un personnage reste voilé, son identité masquée, floue, si le patient vous dit « en tout cas ce n'est pas ma mère », vous savez, vous pouvez dire « c'est votre mère ». Parce que, au fond, ce qui est là déterminant, c'est que le mot « mère » soit venu. Alors, il est venu flanqué d'un nom parce que c'est le signe que, sans doute, il était refoulé et qu'il ne pouvait apparaître que avec la marque, le passeport d'un nom qui le rendait admissible. C'est ce que Freud a appelé, la dénégation. Et c'est une piste à suivre. Quand il y a parfois des négations trop soulignées, trop insistantes, ou des affirmations tonitruantes, essayez voir si ce que pense vraiment le sujet en question, ce ne serait pas le contraire. Ça aussi, c'est le principe d'un certain nombre de lapsus qui se font entendre, par exemple. exemple, dans les campagnes électorales, où quelqu'un qui veut dire oui, dit non, à la télévision, en public. Bon. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que la ponctuation est responsable de l'inconscient. Et que plus on interprète, et plus l'inconscient se vérifie. Alors, bien sûr, c'est une auto-validation de l'analyse, et si l'on veut, c'est une faiblesse de l'analyse, à savoir que, une fois qu'on y est, en effet, on se convainc de ce qu'il y a à l'inconscient, mais ça n'est pas un tour de magie. Ça tient à un procédé très précis qui a des coordonnées, d'ailleurs, beaucoup plus précises encore que ce que je peux vous dire ici. Alors, je peux quand même vous dire que ponctuer la parole, c'est évidemment la traiter comme de l'écrit. L'inconscient lisible, c'est de la parole en quelque sorte devenue écrit. Un mode très spécial de l'écrit, un écrit dans la parole. Et d'ailleurs, les analystes jouent volontiers sur les mots en traitant la parole en référence à l'écrit. Le jeu de mots exploite le rapport de la parole à l'écrit. Parce qu'une même suite de sons peut s'écrire de deux façons différentes. Et elle peut avoir deux sens différents si l'on joue sur les mots. Alors, ça ne veut pas dire que, pour autant, qu'il soit si intéressant que ça, psychanalyser les œuvres littéraires. Depuis les débuts de la psychanalyse, les psychanalystes, enfin, se sont pas privés de psychanalyser les œuvres littéraires, le théâtre, le recueil de mythes, etc. Mais, en fait, enfin, l'inconscient est illisible dans l'écrit, il n'est lisible que dans la parole. Le « je vous écoute » est la condition de la lecture de l'inconscient. Il arrive que quelqu'un invente de vouloir faire une analyse par écrit. Ben, c'est pas possible. Il faut le rapport au « je vous écoute », qui est en quelque sorte la devise de l'analyste. C'est pas le seul à dire « je vous écoute », l'analyste, la standardiste du téléphone aussi dit « je vous écoute », l'examinateur qui vous interroge à l'oral. Mais la standardiste se passera de connaître votre numéro, l'examinateur vous mettra une note, avec le juge, vous jouerez peut-être vos biens, votre liberté, votre vie, tandis que le « je vous écoute » de l'analyste, c'est un « je vous écoute » absolu, qui ne promet rien d'autre que cette écoute même. Il est arrivé à Michel Foucault de qualifier les analystes de « loueurs d'oreilles ». Mais bien, s'il fallait à l'analyste non seulement une devise, mais aussi un emblème, ce serait l'oreille. Et les orifices du corps ont la plus grande importance pour la psychanalyse. Et l'oreille, eh bien, elle a la propriété spéciale de ne pas pouvoir se fermer. Même si l'analyste est derrière vous, vous savez que ses oreilles sont ouvertes. Si les oreilles avaient des petits clapets, comme les yeux ont des paupières, peut-être que la disposition de la science analytique inventée par Freud ne serait pas la même, ne serait pas opératoire. Il peut arriver que la présence seulement auditive de l'analyste ne soit pas suffisante au gré du sujet, et qu'au-delà de l'oreille, il faille la présence visuelle du corps de l'analyste. Alors, le « je vous écoute » de l'analyste est là, pour susciter chez le sujet son s'entendre parler. Mais une fois qu'il s'entend parler, le sujet en analyse cesse de s'adresser à l'analyste comme un autre qui est son semblable. Et il se met à s'adresser, en fait, à travers lui, à un autre absolu, à un autre impersonnel. L'analyste lui donne seulement le support de sa présence, de son corps. L'analyste, c'est une sorte d'homme de paille, disait Lacan. L'homme de paille de l'autre avec un grand A. Alors, il y a des sujets pour lesquels, en effet, il faut conduire l'analyse en face à face. Parce qu'il y a des sujets qui ne s'intéressent pas à l'abstraction du grand autre. Pour eux, ce n'est pas un interlocuteur valable. Parce que comme abstraction, il pourrait aussi bien être mort. alors que ce sont des sujets qui sont accrochés au désir de l'autre. Et c'est pourquoi pour eux c'est très important de pouvoir vérifier que cet autre est vivant. Il est vivant et au fond, il a un désir précisément. Donc il manque de quelque chose, qu'il n'est pas parfait. Et pour s'assurer que cet autre est vivant, le sujet veut recevoir de l'analyse des signes de vie et de désir. Il est donc difficile pour ce sujet de se contenter d'un analyste défini par un pur « je vous écoute », c'est-à-dire par son oreille. Alors ce sont des analysantes qui feraient plutôt crier l'analyste, qui cherchent à le faire crier par éventuellement des manifestations extravagantes, originales, mais qui sont destinées à permettre à l'analyste de démontrer qu'il est en vie. Et même éventuellement qu'il a des envies, par exemple, qu'il a tout de même envie qu'on lui fiche un peu la paix. Bon. Alors, un certain nombre d'analystes considèrent que ce type de sujets sont inanalysables, parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à s'adresser à l'autre invisible. Eh bien, moi je pense, et un certain nombre de ceux qui pratiquent comme moi, qu'on peut grandement tranquilliser ce genre de sujet, leur permettre de faire une analyse, à condition de leur donner certains signes de vie. Je peux même évoquer un curieux paradoxe sur lequel je ne finis pas de rêver. J'ai vu arriver chez moi, après 5 ans d'analyse, chez un autre analyste, une dame qui s'était très bien accommodée de son analyse précédente, alors que, m'a-t-elle dit, il dormait très souvent pendant les séances matinales. Donc, en tout cas, en dormant, il marquait un grand éloignement à l'égard des significations, de toutes les significations. Mais ce qui la retenait, c'est qu'il ronflait. Et le ronflement est un signe de vie. Évidemment, c'est un exemple tout à fait limite, et je vous assure que ce n'est pas du tout la position recommandée aux psychanalystes.
Histoire de la psychanalyse par Jacques-Alain Miller. Réalisation, Éric Boisset, Christine Berlamont.